France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin. Au programme aujourd'hui, une ancienne de la Marine Nationale reconvertie en lobbyiste de la pêche au thon, parcours atypique dans les chroniques littorales. Le Zoom nous emmènera en Roumanie avec cette question: comment comprendre ce vote d'extrême droite qui pourrait porter dimanche au pouvoir George Simion, arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. L'invité déjà debout arrive à point nommé à 6h moins le quart. Emmanuel Chalère est artisan torréfacteur de café et comme on dit sur France Inter, on va déguster. Prendre son café en riant et pourquoi pas en silence. Le silence, c'est le sujet de Café Philo ce matin. Et pour se réveiller quand même, Mathieu Conquet a choisi Théodora dans la playlist d'Inter. Ça va secouer. Vous avez le menu, je vous accompagne pour 4 heures d'antenne. C'est parti. Et ça démarre avec le journal de Tristan Barraud. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Des discussions sur la fin de la guerre en Ukraine aujourd'hui, mais sans président.
Ni le russe, ni l'ukrainien, ce seront plutôt des délégations. Les États-Unis seront aussi représentés. Finalement, pas de Donald Trump, mais son secrétaire d'État Marco Rubio fait le déplacement. Les autorités américaines qui ont fait savoir leur scepticisme sur l'issue de ces négociations en Turquie, Claude Guibal.
En annonçant être prêt à faire un détour par Istanbul pour assister aux négociations entre Russes et Ukrainiens, Donald Trump entendait en fait y conclure un accord qui aurait bouclé de façon triomphale son voyage au Moyen-Orient, marqué par un rapprochement inattendu avec la Syrie et la signature de contrats faramineux avec les pays du Golfe. Mais le rétropédalage de Vladimir Poutine, en envoyant qu'une délégation de second rang, a douché le président américain, interrogé par la presse à bord de son Air Force One.
Je ne suis déçu de rien. On vient de recevoir des milliards de dollars. Et vous venez me dire que je serais déçu à propos d'une délégation? Je ne sais même pas de quoi on parle. Écoutez, il ne se passera rien si Poutine et moi, on n'est pas sur place ensemble. C'est clair?
Son secrétaire d'État, Marco Rubio, s'était montré lui aussi explicite en disant n'attendre pas grand-chose dans ces conditions de cette réunion. Donald Trump montre donc sa lassitude et presque indifférence devant la rigidité de Vladimir Poutine, lui qui a déjà partiellement rempli ses objectifs. La signature de l'accord sur les minerais ukrainiens reste le désengagement militaire américain de l'Ukraine, auquel l'implication des Européens donne de nouvelles perspectives.
Claude Guibal, correspondante France Inter aux États-Unis. Nouvelle journée de bombardement dans la bande de Gaza. 100 morts en 24 heures, selon les secouristes. Israël promet de tout faire pour retrouver les auteurs de tirs mortels près d'une colonie israélienne la nuit dernière. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, alerte. Le dernier hôpital de Gaza fournissant des soins cardiaques et de cancérologie a cessé de fonctionner, gravement endommagé par des frappes israéliennes. Rétropédalage en Belgique, pas d'abandon du nucléaire. Les députés viennent d'abroger la loi emblématique de 2003 qui prévoyait une sortie en 2025. Le ministre de l'énergie belge souhaite au contraire relancer une filière innovante. Il déclare la fin de 20 ans de blocage et d'hésitation pour ouvrir la voie à un modèle énergétique réaliste et résilient, ce sont ses mots.
En France, des plaintes déposées contre des cadres de l'armée.
Violence volontaire, harcèlement moral, des faits graves que 3 anciens militaires et un soldat toujours en poste, en arrêt maladie, porte devant la justice. Ça s'est passé au 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Castres, dans le Tarn. L'armée ouvre une enquête interne, Nolwenn Lejeune.
L'armée, et plus particulièrement les forces spéciales, Clovis Tritot en rêvait. Il s'engage au 8e RPIMA de Castres et découvre une réalité tout autre.
J'ai été pris pour cible dès le départ, parce que j'avais quand même un bagage intellectuel qui me permettait de savoir que certaines de leurs pratiques n'étaient pas normales.
Comme ce bisou qu'il est forcé de faire sur la joue de son chef. Plus grave, Clovis Tritot décrit des violences physiques.
Ils appellent ça une claque tapée. Donc, ouais, il fait vas-y, baisse la tête, tiens tes yeux. Un truc humoristique pour dire tu vas te prendre un coup sur la nuque, c'est tellement violent que tes yeux vont sortir de tes orbites.
Son avocat Thibault Lafort Forcade a déposé sa plainte et celle de 3 autres anciens militaires il y a une semaine au tribunal de Paris. Il dénonce un système généralisé de brimade.
Ce qui me questionne, c'est savoir si on a besoin aujourd'hui, en 2025, pour faire acquérir cette rigueur à une nouvelle génération de soldats, de les humilier. Je ne suis pas non plus certain qu'on ait l'obligation de plonger un jeune militaire en formation dans un canal d'excréments humains.
Des faits graves et inacceptables dont nous n'avions pas connaissance, confesse le général Frédéric Danigo, qui commande la 11e brigade parachutiste implanté à Toulouse et a sous ses ordres le 8e RPIMA. Il va diligenter une enquête de commandement.
Tout ce que je peux vous affirmer, c'est notre ferme volonté de faire toute la lumière sur ces faits et, le cas échéant, de sanctionner sévèrement les auteurs.
Le ministre Sébastien Lecornu a lui reçu un courrier de l'avocat des plaignants dont il est en train de prendre connaissance et auquel il apportera une réponse, assure son service de presse.
Un climat délétère contre les personnes LGBT+, dénoncé par les associations. Le nombre d'infractions à leur encontre est en hausse. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus 5% en un an, du cyberharcèlement jusqu'aux violences physiques. Mais le recours au dépôt de plaintes est encore trop faible, note le communiqué. Celui qu'on appelle le violeur de la Sambre dans l'Est de la France est mis en examen pour 13 nouveaux cas de violences sexuelles commis entre 1986 et 2009. Parmi les faits reprochés, 3 concernent des mineurs, dont une fille de 13 ans, selon les informations de Ici Nord, ex-France Bleu. Dino Scala, entendu hier par un juge, alors qu'il est déjà en prison, condamné en 2022 à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle. Du contenu misogyne et viriliste, petite victoire pour la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, le compte TikTok de l'influenceur Adrien Laurent supprimé de la plateforme. Il comptait près de 2 millions d'abonnés. Aurore Berger fustigeait dans une lettre adressée au réseau social, en particulier des vidéos qui prônaient des pratiques sexuelles violentes et sans consentement.
Et de 28.
28e titre de champion d'Espagne pour les footballeurs du FC Barcelone hier soir après leur victoire contre leur voisin catalan de l'Espagnol Barcelone. 2-0 pour le score final et des supporters qui ont exulté. Leur club est de retour au sommet. L'année dernière, c'était leur éternel adversaire du Real Madrid. Ambiance à Barcelone avec Henri de Lagueri.
Au coup de sifflet final, dans ce bar réservé aux sociaux du Barça, la patronne Eulalia sort une bouteille de cavas et le champagne catalan. Cette victoire a un goût particulier.
Ces gamins ont du mérite parce qu'ils viennent du centre de formation. Ils vibrent pour ce club. Ils ont l'air tellement heureux, ça fait plaisir.
Tout au long de la saison, le Barça a proposé un jeu spectaculaire. Il a remonté des situations impossibles. Il a battu à 4 reprises l'ennemi historique, le Real Madrid. Francesca a vibré devant la nouvelle star, Lamine Yamal, 17 ans, est lui aussi formé au club.
J'ai 71 ans, ça pourrait être mon petit-fils. Lamine, il est hors du commun.
Et cette victoire, Barcelone la doit aussi au Brésilien Rafinha et à l'entraîneur allemand Hansi Flick. Jusque tard dans la nuit, et des milliers de personnes ont fait la fête autour de la fontaine de Canaletas sur la Rambla. Et Léo, 11 ans, vit un rêve.
Toute la semaine, j'ai supplié mon père. Papa, est-ce qu'on peut aller à Canaletas? Et là, on y est, c'est magnifique. J'adore.
Alors bien sûr, la saison aurait pu être encore plus belle si le Barça avait pu se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mais à en croire les supporters, ce n'est que partie remise. Barcelone, Henri de Lagueri, France Inter.
Et c'est le 5e titre en 10 ans pour le Barça, mais c'est le Real Madrid qui reste le club le plus titré de l'histoire de la Liga espagnole, puisque le Real l'a remporté 36 fois.
Pas mal. Voilà. C'était le journal de Tristan Barraud, de retour dans moins d'une demi-heure pour un nouveau point sur l'information. Il est 5h07 sur France Inter.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
De la lumière et des éclairs aujourd'hui, Elodie Calac.
Une journée bien ensoleillée, mais des orages sur le sud-est. Sur la Provence, la Côte d'Azur, le sud des Alpes et la Corse, c'est nuageux ce matin avec quelques averses. Cet après-midi, le ciel va devenir menaçant avec des orages parfois bien pluvieux. Sur le sud-ouest, là, il faut composer avec la grisaille, surtout sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Cet après-midi, ce sera partagé entre nuages et belles éclaircies. Quelques averses seront possibles près des Pyrénées. Partout ailleurs, du soleil. Patience, il y a tout de même des brouillards entre Bretagne et Normandie ce matin. Il y aura plus de nuages sur le Nord-Pas-de-Calais cet après-midi. Le vent de nord à nord-est reste sensible. Au nord, du Val-de-Saône à la vallée du Rhône et en Méditerranée. Les températures évoluent peu. Ce matin, comptez 6 à 10 degrés au nord, 10 à 17 au sud. Cet après-midi, 16 degrés à Saint-Malo, 18 à Lille, à Bayonne, 22 à Paris et Strasbourg, 23 à Nantes, Limoges, Lyon, Toulouse ou Ajaccio, 25 degrés à Bordeaux et 26 à Nîmes.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd.
5h09 à suivre sur Inter, une femme marin passée de la navigation au couloir de Bruxelles. Elle sera dans les chroniques littorales. Vous prendrez bien une tasse en ce petit matin. Notre invité déjà debout est artisan torréfacteur de café en Haute-Savoie. Il nous répond à 6h moins le quart. Avant ça, eh bien une pizza avec le café. Charline Vanhoenacker explose les faits, ce sera à 5h25. Et puis la chronique d'où ça sort nous dira tout sur les essaims sismiques, ces tremblements de terre à répétition. Dans quelques minutes, minutes donc les chroniques littorales, mais d'abord on plonge dans la musique avec l'américain Matt Berninger, le chanteur du groupe The National, cette fois en solo pour ce titre Bonnet of Pins. Bon réveil sur France Inter. Bonnet of Pins de Matt Berninger en concert en Europe le 2 septembre à l'Élysée Montmartre à Paris et à Bruxelles le 12 septembre prochain. 5h14, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarre.
Bonjour Marion Lourd.
Ce matin, José-Emmanuel, vous recevez une passionnée de mer qui défend les pêcheurs.
En la personne de Anne-France Matelet, Marion. Anne-France Matelet, bonjour.
Bonjour.
Anne-France Matelet, aujourd'hui vous êtes la directrice d'Europêche Tuna Group, c'est un lobby concernant la pêche, vous êtes à Bruxelles. Mais dans une autre vie, vous avez commencé comme administrateur des affaires maritimes dans la Marine nationale.
Tout à fait. J'ai commencé dans la Marine nationale par des embarquements sur des navires pour la formation et ensuite avec un premier poste de contrôle des pêches à Boulogne-sur-Mer.
C'est ça, être administrateur ?
Oui, être administrateur des affaires maritimes, c'est être en charge du contrôle des pêches, de tout ce qui est gestion du littoral également et globalement de tout ce qui a trait à la mer, mais qui n'est pas militaire.
Mais qui n'est pas militaire tout en étant
tout
Marine
en
nationale.
Étant militaire.
Parce que vous étiez militaire,
exactement.
Bien évidemment.
C'est la contradiction.
Pourquoi devient-on militaire dans la Marine nationale ?
Je pense que, en ce qui me concerne, en tout cas, la vraie question, c'est pourquoi va-t-on vers la mer ?
Vous êtes une fille de la mer ?
J'aimerais l'être. Je suis née en Bourgogne, malheureusement. En revanche, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de marins, d'armateurs, de personnes qui travaillent dans la mer. Et je leur ai trouvé un point commun, c'est d'être des gens généralement passionnés. Et c'est du coup un métier qui m'a tout de suite attirée.
Les fameux mériens et mériennes.
Les fameux, oui.
Et donc, Marine nationale ?
Marine nationale. Parce que c'est vrai que la Marine nationale, on a des règles.
Et on apprend beaucoup de choses.
Et on apprend beaucoup.
Alors, quelle était votre entrée dans la Marine nationale ? C'était l'entrée par l'école navale ou une autre filière ?
Tout à fait. On m'a déposé en bus dans la cour de l'école navale.
À l'Enveloppe-Poulmic ?
À l'Enveloppe-Poulmic, à 10h du soir. Il faisait noir. Il y avait un lampadaire. Et on a attendu 10 minutes avant que quelqu'un vienne nous chercher et nous apprenne à saluer.
Et oui. Et c'était vous savez qu'il y a toujours un seul lampadaire. Hein.
Ça m'étonne pas.
Ça n'a pas changé. Et les grandes chambrées ?
Et les grandes chambrées, on était 6 par chambre.
Et le réveil à quelle heure ?
Ouf, ça dépendait, mais entre 5h et 6h du matin, oui.
Oui, pour le salut aux couleurs quand pour il fait bien bien froid, bien humide l'hiver et qu'on est face à l'océan.
Mais quelle vue !
Mais quelle vue ! Et aujourd'hui, vous êtes la directrice d'Europêche Tuna Group. Alors, vous êtes passée de la Marine nationale, mais toujours pour la défense des pêcheurs, mais là, côté civil.
Tout à fait, côté civil. Le point commun, c'est quand même qu'on reste dans un milieu maritime et surtout qu'on défend ce monde de la mer.
Et là, vous défendez les pêcheurs de thon.
Là, je défends les pêcheurs de thon.
Mais là, c'est à Bruxelles, c'est auprès des autorités européennes.
Auprès de la Commission européenne, du Parlement européen.
C'est pas vraiment des marins, eux, là-bas.
On aimerait bien qu'ils le soient un peu plus.
Quand même. Hein.
On aimerait bien.
Qu'ils aient aussi un peu l'esprit maritime, l'esprit d'équipage.
Mais je pense que c'est pour ça que c'est essentiel qu'il y ait des gens qui connaissent la profession, qui leur expliquent comment ça fonctionne, quels sont nos enjeux, nos problèmes, nos espoirs, et que tout ça se traduise ensuite, lorsqu'ils parlent à leurs différents interlocuteurs, en politique équilibrée.
Voilà, qu'on comprenne un petit peu ce que c'est que l'esprit marin.
C'est ça.
Et surtout la défense des mers et de l'océan.
Et des marins.
Et des marins. Or, de temps en temps, je pense que vous chantez aussi au 31 du mois d'août, Anne-France Matelet.
Ça m'arrive.
Ça vous arrive. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la mer, Anne-France Matelet ?
Pour moi, la mer, c'est un des derniers espaces à la fois de liberté, mais pas forcément liberté dans le sens où on y fait ce qu'on veut. Mais quand vous êtes au milieu de l'océan, sur un navire, qu'il n'y a personne en vue, que vous êtes seul, en fait, là, vous prenez un peu la mesure du peu qu'on est et au final, de la chance qu'on a d'être ici.
Oui. Et la mer rend humble ?
La mer rend humble. Elle rend humble et elle ne pardonne pas. On peut l'aimer, mais il faut vraiment faire attention à tout. Et je pense que c'est une très bonne école. Ça apprend à faire le moins d'erreurs possible, à faire attention aux détails, mais aussi à tout ce qu'on entreprend, parce que la moindre erreur peut au final finir en catastrophe.
C'est un esprit, la mer.
Très bien dit. La mer, c'est un esprit.
Et sur quel navire avez-vous navigué ?
Sur une goélette, un remorqueur de haute mer et un porte-hélicoptère. Et un porte-conteneur, qui a été une expérience assez extraordinaire aussi.
Et le porte-hélicoptère, c'était un bâtiment de projection et commandement ?
Tout à fait, le Mistral.
Merci à vous, Anne-France Matelet. Un site internet, europêche.org. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque.
Le 5-6 sur France Inter.
Il est 5h18, les unes de la presse ce matin, des sujets extrêmement variés, des plus graves aux plus légers. Le duel entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la tête du parti LR, premier parti de France, semble intéresser vos journaux. Ils occupent dos à dos la une du quotidien Les Échos, sous un titre consacré à EDF et à son nouveau PDG, entretien exclusif où le nouveau patron Bernard Fontana propose à ses plus gros clients de payer l'énergie moins chère. Sous ce titre de une électrique, donc, le duel décisif, estime le journal. Chaque concurrent, micro à la main, semble en plein discours et arbore un air grave. Résultat du scrutin LR dimanche 18h, précise le journal, avec une influence annoncée sur le bloc central. Les deux, Wauquiez, Retailleau, apparaissent aussi plus posés en une du Figaro, regard vers l'objectif. Chacun vient présenter son projet. Le gros titre, c'est ce qu'ils veulent pour la droite. Et effectivement, à l'intérieur, chacun dispose d'un long entretien d'une page pour exposer son point de vue. Rien à voir en une de l'équipe, deux autres hommes, tout jeunes, les champions de ping-pong Alexis et Félix Lebrun, accompagnés de leurs parents. Une famille presque comme les autres, décrit le quotidien sportif, avant le championnat du monde de tennis de table demain. Libération marque une date symbolique, 6 mois de détention pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. C'est son visage qui s'affiche de profil en une du quotidien, celui de l'artiste condamné à 5 ans de prison à l'issue d'un simulacre de procès, détaille le journal, pour qui Boualem Sansal est pris au piège d'une guerre diplomatique entre Paris et Alger. L'été approche et ça se voit en une du Parisien qui nous raconte que les nouveaux régimes prennent du poids alors que le dinosaure Weight Watchers fait faillite. Appli, influenceurs et protéines à gogo sont le nouveau credo. Et puis c'est un collègue. Et quel collègue qui occupe la une du Monde magazine, un portrait entre ombre et lumière de Nicolas Demorand qui occupe, vous le savez, le micro de la matinale du lundi au jeudi. Celui qui a brisé le tabou sur la maladie mentale, selon l'hebdomadaire. Nicolas Demorand, les matins d'après, titre le magazine, référence au titre de son livre « Choc, intérieur nuit ». Un ouvrage salutaire que je vous conseille chaleureusement, tout comme le grand article à lire donc dans le Monde magazine. 5h20, d'où ça sort? Hier, Mathieu Noël et son équipe ont zoom-zoomé avec leurs invités sur les essaims sismiques des tremblements de terre à répétition. Un phénomène moins facile à repérer qu'un tremblement de terre classique et qui inquiète. Explication, Cyril Lacarrière.
Lundi 24 mai 2024, Pouzzoles, près de Naples, la terre tremble, pas une fois, mais 160 fois. 160 tremblements de terre sont enregistrés cette nuit-là. C'est ça, un essaim sismique. En fait, ces essaims, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui a souvent été mal compris, pour une raison simple. Ça ne commence pas comme un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord le gros séisme, le big one, puis les répliques. Avec les essaims, on parle d'autre chose. Selon certains experts, ça ressemblerait à une sorte de grésillement tectonique où toutes les secousses seraient de taille similaire. Plus compliqué encore à comprendre, on ne peut pas prévoir combien de temps va durer cette série de séismes. Plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Par exemple, à ce jour, impossible de savoir ce qu'il en est du dernier en date à Santorin, dans les Cyclades, c'était en février. Il y a eu plus de 19 000 tremblements de terre en l'espace de 20 jours et rien, à ce stade, ne dit qu'il n'y en aura pas d'autres.
Et est-ce qu'on connaît ce qui provoque ces essaims sismiques?
De nombreuses causes semblent en être à l'origine, et notre invité va les détailler. Le glissement d'une faille rocheuse, la pression sur l'eau ou sur le magma, et même l'activité humaine pourrait être un facteur. Quand Donald Trump dit « drill, baby, drill », on va forer, bébé, on va forer, eh bien, ce n'est pas sans incidence sur ce qui se passe sous la Terre. Alors, comment prévoir ces essaims sismiques? Est-ce qu'ils vont se multiplier? Est-ce qu'ils sont dangereux?
Et c'était Cyril Lacarrière qui donnera, vous aurez les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen, Cyril Lacarrière et Mathieu Noël reviennent cet après-midi avec un voyage dans le temps en 2015, plus précisément, où sortait la première saison du Bureau des Légendes, la série. Aujourd'hui, c'est l'adaptation américaine The Agency qui fait sa sortie. Rendez-vous donc à 17h sur Inter. Il est 5h22. Dans un instant, une part de pizza et une rasade d'humour avec Charline Vanhoenacker. Mais tout de suite, la belgo-congolaise Camille Yembe. Elle chante « Plastique ».
Est-ce que tu me passerais une cigarette? J'avoue, je fume pas, mais je peux le faire. Pour toi, c'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique. Pour pouvoir la jeter, jeter au sol. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques? J'ai rêve de vivre, d'amour et de colère.
notre fils est au match.
Camille Yembe, qui est donc en tournée cet été. Il est 5h25.
France Inter.
Et la joie de retrouver Charline Vanhoenacker tous les matins dans le 7-10 de France Inter. Elle explose les faits. Mardi, elle nous parlait du département américain de la justice qui surveille de très près les livraisons de pizza.
Aux États-Unis, les juges sont terrifiés par les livraisons de pizza. C'est le titre d'un article du Huffington Post. Et bien sûr, j'ai cliqué. Le média en ligne nous apprend que depuis plusieurs semaines, des juges américains reçoivent à domicile des pizzas qu'ils n'ont pas commandées. Et recevoir une pizza sans même l'avoir commandée, c'est ce que Nicolas Demorand appelle un don du ciel. Mais pour les juges américains, ciblés par Trump, c'est une menace parce que c'est une manière de leur signifier « on sait où tu habites ». Ça ferait référence à un fait divers survenu en 2020, dont la menace est très claire. Voilà pourquoi aujourd'hui, de New York à San Francisco, on ne dit plus « j'ai commandé une pizza », mais « j'ai commandité une pizza ». Avant, ça c'est moi qui l'ai inventé, mais bon. Avant, quand un juge...
Je sais plus, vous savez.
On ne sait plus trop, c'est bien ça le problème. Avant, quand un juge était menacé, il retrouvait une tête de cheval dans son lit. Maintenant, il retrouve une pepperoni. Avant, on menaçait les gens avec de l'anthrax, maintenant c'est avec de l'origan. Avant, chez Domino's, ils avaient un pic de commandes les soirs de match, maintenant c'est les soirs où Trump invective les juges. Vous voyez ? Votre invité de 8h20, Maître Spinozzi, l'a rappelé ce matin, les juges, c'est le rempart au populisme. Ils peuvent invalider les décrets Trump, et les populistes n'ont aucun second degré. Il faut nourrir le sentiment anti-juge, ils l'ont pris au pied de la lettre. Vous voyez ? Qui aurait cru qu'un jour, le désir de vengeance ferait flamber le cours de la mozzarella ? Personne n'a vu arriver le cartel du Pizza Hut. Maintenant, la menace est livrée chez vous en moins de 30 minutes. Et les livreurs se retrouvent complices malgré eux. Même la menace de mort est ubérisée, ce qui rend parano les magistrats. John, pourquoi tu fais ta valise ? La pizza, Brenda, la pizza ! Je vais commander une royale jambon champignon supplément olive. Oui, John, et alors ? Et alors ? Ils m'ont livré une pizza fruits de mer ! On est foutus, Brenda ! Il faut qu'on déménage ! Mais tu calmes, John ! Non, c'est trop tard, Brenda ! Ils sont au courant, je suis allergique aux crustacés ! Voilà. Il y a sans aucun doute une graduation dans la menace. Une margarita est un premier avertissement. Une 4 saisons supplément fromage, ça devient sérieux, oui. Ah, ben merci pour le supplément tête d'asperge en garniture. C'est pas des asperges, c'est des douilles. Normalement, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, mon petit conseil, quand même, mangez le chaud. C'est meilleur. Mais dans ce cas, posez-vous cette question. Si un juge reçoit une pizza non sollicitée et qu'il la mange, est-ce que c'est une destruction de preuves ? Léa, arrêtez de saliver, c'est sérieux, c'est sérieux. Le département de la justice suit cette affaire pour tenter d'appréhender les coupables. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est l'opération Calzone. Ça, c'est faux, c'est moi qui l'ai inventé. J'essaye de vous remettre un petit peu sur les rails, Léa.
Je vous remercie. Et oui, j'ai besoin.
Ce qui est vrai, c'est que tu postules au FBI pour mener des enquêtes incroyables et tu te retrouves à pister des quatre fromages. Alors, on arrive au bout de la carte des pizzas, donc la chronique est bientôt terminée. Je vais terminer comme ça. Moi, la pizza, je l'aime napolitaine, avec des anchois et des capres. Voilà. Je le précise, au cas où des gens voudraient me menacer. Voilà. Et pour l'adresse, envoyez ça directement à Radio France. Et entre midi et deux, ce sera parfait.
France Inter.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 sur Inter et demain samedi 19h20 pour Bistroscopie en compagnie de l'écrivain Marc Lévy. Dans une poignée de secondes, le journal.
Ce dimanche, Pierre Gagnaire nous offre sa leçon de cuisine.
France Inter, 11h. François-Régis Gaudry.
Il faut que votre travail donne du sens à votre vie. Quand on a la chance de pouvoir trouver quelque chose qui vous transcende, qui vous donne le sentiment de bonheur parce que vous apportez quelque chose aux autres, bah il faut y aller, quoi.
Le chef 3 étoiles nous raconte 50 ans de cuisine, une carrière faite de haut, de bas, de découvertes éblouissantes et de coups de génie.
On va déguster.
Avec Pierre Gagnaire, c'est ce dimanche, à partir de 11h.
Il est 5h29 sur France Inter. Mais qui voilà ? Ali Badou vient de me rejoindre dans ce studio pour un avant-goût d'ici 9. Bonjour Ali.
Bonjour Marion.
Au programme aujourd'hui ?
Au programme à 6h20, alors que la France Inter vous révèle ce matin qu'Europol a identifié plusieurs dizaines d'enfants tueurs à gages. Votre invité Marion sera Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la grande criminalité. À 8h moins le quart dans le débat éco, cette question: la TVA sociale peut-elle sauver la sécu? Nous en parlerons avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, le grand entretien de France Inter avec le ministre d'État et des Outre-mer, Manuel Valls. Vos questions au 01 45 24 7000 à partir de 7h ou sur l'application de France Inter.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Un nouveau journal avec Tristan Barraud. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Et une des pénuries de médicaments qui inquiète.
Des antidépresseurs de référence, des médicaments pour les patients qui souffrent de bipolarité aussi. 14 molécules manquent ou sont en très forte tension en ce moment. Des mois que ça dure, ce qui n'est pas sans conséquence pour les patients, Victor Delande.
Sébastien, 42 ans, souffre de troubles bipolaires. Sans son traitement, il a été obligé de s'adapter avec un médicament de substitution, un traitement avec des effets indésirables très forts.
En une demi-heure, je suis défoncé, je tiens pas debout et tout, j'avais jamais vécu de tels effets. Et du coup, en fin de journée, j'ai une sensation de manque avec des vertiges, des sensations dans le cerveau et dans le corps, des faiblesses. C'est du n'importe quoi. C'est angoissant, c'est stressant et du coup, ça amplifie les troubles. C'est vraiment dramatique.
Avec des risques de décompensation sévère pour de nombreux malades, comme le constate tous les jours Hugo Bopp, psychiatre à l'hôpital de Périgueux.
Ces pénuries, ça bousille des vies, hein, tout simplement. On se dit encore que les médicaments psy, c'est juste une béquille, mais que c'est pas indispensable pour vivre, dont on pourrait se passer finalement, et ce serait presque un luxe. Mais non, encore une fois, ça permet à des gens de vivre ou de survivre. Je me sens globalement débordé par la souffrance des gens. On est de plus en plus inquiets, les gens décompensent, les gens se font réhospitaliser, on a de moins en moins de place à l'hôpital.
Des associations de patients ont envoyé des lettres d'alerte au ministre de la Santé. Une pétition est en cours d'élaboration, mais rien ne change. Très alarmiste, un psychiatre conclut: quand il y a des pénuries de Doliprane, le président de la République prend la parole. Quand les psychotropes manquent à l'appel, personne ne bouge.
Victor Delande, spécialiste santé de France Inter. Il n'y aura pas de fermeture de maternité pendant 3 ans en France. À l'Assemblée nationale, un texte adopté en première lecture hier soir pour lutter contre la mortalité infantile. Il prévoit d'instaurer un moratoire sur les fermetures de maternité. 3 ans donc, pendant lesquels un état des lieux sera réalisé sur ces établissements pratiquant moins de 1000 accouchements par an. Les promesses n'ont pas été tenues. Le principal syndicat agricole appelle à de nouvelles actions à partir du 26 mai. La FNSEA souhaite lever encore des contraintes qui pèsent sur le métier, notamment en matière d'accès aux pesticides. Des militaires de l'armée française qui portent plainte auprès du tribunal de Paris contre leur hiérarchie. 4 soldats parachutistes au 8e régiment d'infanterie de marine de Castres. Ils se disent victimes de harcèlement, témoignent de coups, de violentes humiliations verbales et physiques. L'un d'eux a fait une tentative de suicide, des pratiques d'un autre temps pour leur avocat. Une enquête interne est ouverte.
Et 5h32 sur France Inter, ça sera finalement aujourd'hui.
Les pourparlers en Turquie sur la paix en Ukraine, il n'y aura ni Volodymyr Zelensky ni Vladimir Poutine après des jours de suspense et d'invectives, mais plutôt leurs représentants. La rencontre entre Ukrainiens et Russes doit avoir lieu aujourd'hui, supervisée par la diplomatie turque. Les États-Unis seront aussi présents. Un secrétaire d'État de Trump est attendu, mais personne n'attend grand-chose de ces discussions, Sylvain Tronchet.
Le constat cinglant vient de Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine a été franc hier. Nous n'avons pas de grandes attentes quant à ce qui se passera demain. Avant même d'avoir commencé, les premières discussions directes entre Russes et Ukrainiens semblent dans l'impasse. La faute probablement à un manque de préparation en amont. Donald Trump a voulu aller vite, comme d'habitude. Il a intimé aux deux camps de se retrouver en Turquie, mais sans en fixer le cadre. Du coup, hier, Volodymyr Zelensky attendait Vladimir Poutine quand le chef du Kremlin a envoyé une délégation de second rang. Il a donc fallu que l'Ukraine désigne une délégation à son tour, qui se retrouvera aujourd'hui face aux envoyés de Moscou avec des objectifs diamétralement opposés. Les Ukrainiens sont mandatés pour négocier une trêve, les Russes pour parler des causes profondes du conflit, comme le dit le Kremlin. Sur le fond, comme sur la forme, rien ne colle et Donald Trump lui-même semble avoir abandonné l'idée que quelque chose puisse en sortir, affirmant hier que rien ne bougerait tant qu'il n'aura pas rencontré personnellement Vladimir Poutine. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
De l'Ukraine à Gaza, les conflits dans le monde, thème abordé par Emmanuel Macron avec le nouveau pape Léon XIV hier. Les deux se sont entretenus pour la première fois. Le président français l'a félicité. Il fait savoir qu'il a évoqué les efforts à mener pour faire taire les armes partout où les conflits sévissent dans le monde. C'est un chanteur aux dizaines de millions de disques vendus dans le monde. On apprend que Chris Brown est inculpé au Royaume-Uni pour coups et blessures volontaires, soupçonné d'une agression dans une boîte de nuit de Londres en 2023. Annonce la police. Chris Brown, qui dans le passé, en 2009, avait déjà été reconnu coupable d'avoir frappé violemment Rihanna, son ex-petite amie. Et puis elle a émerveillé des milliers de touristes et de Parisiens l'été dernier. La vasque olympique dans le jardin des Tuileries face au musée du Louvre sera de retour dès le début de l'été, le 21 juin prochain, pour fêter le premier anniversaire des Jeux de Paris. Elle sera en place jusqu'au 14 septembre, accès libre. Et l'iconique cheval métallique de la cérémonie d'ouverture, lui, est en tournée dans toute la France et ça va durer jusqu'en septembre.
Eh ben, on en reparlera dans l'édito sport de Nathalie Yanetta à 9h10. Merci pour ce journal, Tristan Barraud. Bonne journée, bonne nuit.
Bonne journée.
Avec globalement du soleil aujourd'hui, quelques brumes et brouillards ce matin dans le sud-ouest et sur la vallée de la Garonne, mais ils vont se dissiper rapidement. Des nuages persistent jusqu'en début d'après-midi sur les Pyrénées en région PACA, avec des averses dès ce matin qui rapidement deviendront orageuses sur les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse. Risque orageux qui se décale vers l'est sur les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Ça devrait tonner aussi sur l'ouest de la Corse. Partout ailleurs donc, ciel dégagé et soleil. Le vent de nord-nord-est se renforce au fil de la journée. Mistral et Tramontane jusqu'à 60 km/h. Côté température, on reste légèrement sous les valeurs de saison. Prévoyez 16 degrés à Cherbourg, 18 à Brest, Lille et Biarritz, 21 à Nancy et Dijon, 22 à Paris, Rennes, Strasbourg et Clermont, 23 à Lyon, Limoges, Toulouse, Marseille et Tours et 24 à Perpignan ainsi que 25 à Bordeaux.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de retrouver Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Pour un coup d'œil, un coup d'oreille dans la playlist de France Inter. Et ce matin, vous nous parlez de Théodora, une chanteuse qui n'arrête pas de faire parler d'elle.
Boss Lady, c'est son surnom. Elle charbonne, comme on dit. Écoutez ça, c'est sorti mardi.
Je suis pas trop sympa, mais plus fleur. Même si je te sens pas, baby square. C'est le sympa d'arriver. On danse la samba dans le beurre. Baby boo, j'aime l'argent, le blé, le beurre. Je suis pas beaucoup. J'ai vu tata, j'ai dit beurre. Quoi?
Do you wanna? Vous en voulez encore?
Mais oui.
Après un nouveau duo sorti il y a deux semaines, que je vais vous faire écouter dans un instant, Théodora distille encore et encore des nouveaux morceaux. Sacrée révélation féminine de l'année, ce mardi, lors de la cérémonie des Flammes. Théodora confirme la forte impression de sa mixtape Bad Boy Love Story et des numéros de cabaret que j'ai eu l'occasion de voir et qu'elle déploie depuis quelques semaines partout en concert. Elle sera samedi à Reims et puis Caen en Belgique, en Suisse et encore à We Love Green à Vincennes le 7 juin. Je vous donnerai d'autres dates à la fin parce qu'elle n'arrête pas. À 21 ans, la jeune française congolaise a déjà sorti deux mixtapes plus deux EP. Très peu connu il y a encore un an, il a suffi d'un déclic pour déclencher tous les autres clics. Et le morceau avec lequel tout a basculé, c'est un bouillon, vous le connaissez, c'est obligé.
Dès que je me réveille,
oui.
Congolise sous BBL de Théodora. BBL pour Brazilian Butt Lift, chirurgie d'augmentation de fessiers, Mathieu.
Oui, c'est ça, on connaît tout ça. Mais BBL, bien ça sûr. Peut être aussi l'acronyme de Big Boss Lady. Et figurez-vous qu'elle l'a annoncé hier, une méga BBL sortira le 30 mai. C'est une sorte de super mixtape avec surtout 10 inédits et un gros casting. Un duo avec Luigi, un autre avec Juliette Armanet, encore un autre avec Jules.
Incroyable.
Eh ouais, pas mal. Et puis des collaborations inattendues, différentes, avec Gonzalez, un titre piano et orchestre. orchestres qui s'avaient donné ensemble pendant l'Hyper Weekend ici à Radio France. Et puis enfin, des duos avec London, This Is London, qui est un gros producteur d'afrobeat qui là chante pour la première fois. Bibi Trix, une jeune star espagnole qui a 1 million de followers. Ça, c'est du méga BBL, sorti prévu le 30 mai. Et puis, on retrouvera dedans ce titre qui est déjà en playlist sur Inter, Pay. Un morceau que Théodora signe avec son frère Jeez Suave et aussi Guy de Besbar. Il me propose Coco Chanel, d'un coup je l'aime beaucoup.
Ouais.
Avouez, c'est drôle, c'est Milor vrai. À l'ère de l'Apple Pay.
Future Ronaldo m'a dit toujours en attaque pour les mecs stylés, ceux qui flinguent fort. Yes, frérot.
Il propose Coco Chanel, d'un coup je l'aime beaucoup. Fifi, un coucou chez elle, elle me dit je te vois partout. Tu sais, les flashs, et comme t'aimes pas quand c'est tout, 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 tout. Mais moi j'aime celui qui sort du cash, qui sort tout, 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 tout. Son cœur fait tout, 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 tout. Moi je flingue genre tout, 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 tout. Mes talons, c'est des loups, ils claquent au sol, genre tout, 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 tout. Il m'aime, il aime tout, 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 tout. Il tape, ça fait tout, 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 tout. Tu m'entends, tout, 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 tout. Son coup, moi je papa, papa, papa.
Big off et brr, big off et brr. J'arrive en brr, j'envoie la brr. Nous font les PDG, c'est pas la R. Regarde nos pockets, c'est rempli de ouf. Je rentre dans sa juste après code, Daniel dans le coste. Qui sur le côté, elle sait qu'on est côté. Donc on parle en codé, j'ai le coup gelé. T'es mal à Ice, j'allume mes caisses comme Ice Spice. Je fais une Rivoli sans t'honorer. Apple Pay, je regarde plus le price. Il me faut 3 baby comme Neo. Neo, 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 Neo. J'la fais jumper. Je trouve ça mignon, mignon.
Je crois que c'est clair, le nouveau Théodora en playlist sur France Inter, Méga BBL, sortira le 30 mai. Et il y a d'autres concerts, Mathieu?
Oui, elle sera à Saint-Brieuc, au Nuit Carré à Antibes, et puis à Vincennes le 5 juillet, aux Eurocaennes de Belfort, aux Vieilles Charrues. Allez-y!
Théodora en concert et sur France Inter, bien sûr, parce qu'on la retrouve ce soir dans votre émission, Mathieu.
Et évidemment, et je remets le son, je vous parlerai de la Boss Lady, mais aussi de Bossa Nova. Et si jamais vous voulez faire connaissance avec Théodora, elle fera la radio de Théodora samedi prochain, le 24.
À 5h42, un premier zoom sur France Inter. Et cette question, l'extrême droite arrivera-t-elle au pouvoir ce dimanche en Roumanie? Son candidat, Georges Simion, fait figure de favori au second tour de la présidentielle. 38 ans, souverainiste, admirateur de Donald Trump, il est arrivé largement en tête du premier tour avec près de 41% des voix, moitié moins pour son adversaire, le maire centriste pro-européen de Bucarest. Pour tenter de comprendre ce vote, notre reporter Virginie Pierronon s'est rendue dans la région du delta du Danube, près de la mer Noire. Là-bas, les habitants ont voté pour Georges Simion à plus de 50% au premier tour.
Et pour arriver au village de Tchatalkoï, le long de la frontière avec l'Ukraine, il faut prendre un bac pour traverser un des bras du Danube. Bonnet noir sur la tête, Michel fait monter les voitures. Bien sûr qu'il a voté Georges Simion. Il en a marre, dit-il, des élites politiques corrompues.
Vous savez, moi, je ne me passionne pas pour la politique. Mais ces mecs, ils ont braqué la caisse, et pas qu'une fois. On aimerait bien que ça change, mais on n'est pas entendu. On a essayé avec Georgescu.
Kalin Georgescu, qui à la surprise générale, était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle de novembre 2024, scrutin annulé pour cause d'ingérence sur TikTok. certains ont désigné la Russie. Installée sur la terrasse du café du village, Petrika travaille comme chauffeur routier pour une entreprise irlandaise.
Oui, j'ai voté Simeone, mais ça ne changera rien. Il n'y a plus aucun investissement ici. Ils ne sont même pas capables de refaire 60 km de route. Sincèrement, j'ai l'intention de quitter le pays.
Moi, j'espère que Georgescu sera Premier ministre. Ce Nikushor, c'est Monsieur Personne.
Assise devant une bouteille de bière, Maria, 67 ans, ne décolère pas depuis l'annulation du scrutin de novembre dernier.
Il n'y a plus de démocratie. Ils ont annulé le vote. Ça n'était jamais arrivé. Quand on pense à la révolution de 89, ils sont morts pour rien, ces gens-là. Et maintenant, ils commencent à nous museler. Si Nikushor gagne, moi, je ne pourrai plus vous parler comme ça. Terminé, comme du temps de Ceaușescu.
Un discours qui exaspère le maire social-démocrate du village, Tudor Cernega, qui dit malgré tout comprendre ses administrés. Lui-même est dégoûté des cadres de son propre parti, absent du second tour.
Pour tout vous dire, je ne me suis pas vraiment impliqué dans cette campagne. Très sincèrement, moi aussi je me suis senti délaissé. Ils sont venus, oui, ils ont fait des promesses, et ensuite, rien. Même les membres de ma famille, je n'ai pas réussi à les convaincre. Ils ont voté Simeone.
Dimanche, Tudor Cernega s'abstiendra.
Et justement, la participation, ce sera un élément clé du second tour dimanche, Virginie.
Et c'est ce qui inquiète Kostika, 52 ans. Lui votera pour le candidat pro-européen Nikushor Dan. Sa ferme de Plahorou, le long du Danube, donne sur les silos à céréales du port ukrainien d'Ismaïl, à 200 mètres. Des infrastructures capitales pour les exportations de blé ukrainien et qui sont parfois la cible des drones russes, comme nous le montre le pêcheur sur son téléphone portable. Ici, aux confins de l'OTAN et de l'Union européenne, des déserteurs ukrainiens traversent parfois à la nage. Avec sa femme Daniela, Kostika en a aidé au moins 10 en 3 ans. Et c'est avec inquiétude qu'il regarde les postes d'observation des douaniers ukrainiens, juste en face, sur l'autre rive du Danube.
Si personne ne les aide, bientôt on va se réveiller un matin avec les Russes en face, avec la Fédération de Russie. On a déjà eu cette frontière ici. Je le sais. J'étais enfant. C'était l'Union soviétique.
Dimanche, Kostika et Daniela voteront pour le pro-européen Nikushor Dan, le maire de Bucarest. Au premier tour, plus de 8 millions de Roumains se sont abstenus.
Un zoom de Virginie Pironneau à réécouter sur le site internet de France Inter.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et à 5h46, il est l'heure de contacter notre invité déjà debout et il flotte comme une odeur de café dans l'air puisqu'il est artisan torréfacteur à Vacheresse, en Haute-Savoie. Bonjour Emmanuel Chalère.
Bonjour Marion, bonjour France Inter.
Bienvenue, pourquoi vous êtes déjà debout ?
Alors écoutez, on dit bien que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, plus sérieusement, c'est pas tous les jours que je suis debout à 5h15 le matin, mais...
Ah, c'est quoi c'est votre horaire?
C'est plus 6h30 que j'émerge. J'adore ces ambiances matinales, ces moments pleins de sérénité où on fait le point sur sa journée, on fait un petit peu de sport, ou alors on commence tout simplement effectivement à torréfier.
Alors justement, vous dites que vous êtes plutôt du matin. Est-ce que vous avez une sorte de routine matinale ?
Alors une des premières choses, pour être honnête, ça va être d'aller faire la mouture de mon café pour ensuite le boire.
Du vôtre à vous, quoi.
Écoutez, pour être honnête, oui, j'aime bien mon café.
Et vous faites du sport ? Le sport, c'est important dans votre vie ?
Oui, moi je suis un ancien sportif de haut niveau, j'ai joué au volleyball en France, en Belgique, et j'ai terminé ma carrière à Genève il y a une petite dizaine d'années, et puis effectivement ça reste une façon pour moi de... c'est une façon de vivre pour moi, donc ça va être un footing, ça va être du ski de rando, du ski de fond, ça va être du vélo, mais c'est très important pour moi de rester actif.
Vous parlez de ski, vous avez aussi dirigé un domaine skiable.
Oui, effectivement, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles simultanées en plus du volleyball. J'ai travaillé en Afrique centrale pour l'Union européenne et le Fonds mondial pour la nature dans des parcs nationaux. J'ai aussi dirigé une ONG à Salanches sur le milieu montagnard et j'ai dirigé le domaine skiable des Portes du Soleil.
Et vous êtes venu à la torréfaction, vous vous êtes lancé en 2021. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, après le parcours que vous venez de décrire ?
Alors écoutez, j'ai toujours été fasciné par le café, par toutes les origines qu'on pourrait retrouver en tasse. Et j'ai rencontré beaucoup de caféicultrices, de caféiculteurs en Afrique pendant mes nombreux séjours. Et à un moment, j'ai eu envie de rassembler en fait mes expériences professionnelles et me lancer dans l'aventure. Le côté entrepreneurial me plaisait. Et du coup, je me suis formé sur Paris, je me suis formé sur Lyon, sur Bordeaux et chez le premier meilleur ouvrier de France de la torréfaction, Vincent Ballot, à côté de Besançon. Et donc, j'ai appris le métier et je me suis lancé effectivement il y a maintenant 4 ans.
Et vous avez fondé l'entreprise Montagne Café, qui n'est pas n'importe quelle entreprise. Vous prenez un certain nombre de valeurs.
Oui, effectivement, nous définissons ici chez Montagne Café comme une torréfaction engagée. Donc engagée sur évidemment la qualité des cafés que nous torréfions, hein, des cafés qui sont doublement certifiés et en bio et en commerce équitable. Et nous également engagés sur une rémunération juste pour les productrices, les producteurs de café. Donc, et enfin aussi sur la question de la rémunération et la valorisation des femmes dans la filière café. C'est vraiment important pour nous.
Oui.
Et donc, en créant Montagne Café, j'ai tout de suite eu le souhait d'en faire une société à mission. Donc, nous étions la première société à mission, la première torréfaction, pardon, de labelliser société à mission.
Oui.
Et aujourd'hui, nous sommes 3. Voilà.
Et donc, beaucoup de femmes dans votre entreprise ?
Alors, beaucoup de femmes, non, je suis seul, mais mon épouse n'est jamais très très loin.
Parce que vous dites, il faut promouvoir les femmes.
Oui, non. Alors, je dis ça dans le sens où j'ai un certain nombre de cafés qui sont produits par des coopératives féminines.
Ah, d'accord.
Voilà. Dont un très beau café du Pérou.
Et vous dites, le café, c'est comme le vin. C'est même plus goûteux que le vin.
Alors, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Dans le café, on va parler de terroir, on va parler d'altitude, on va parler de saison, de récolte, de fermentation, d'assemblage, de dégustation, d'arôme. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient, en fait, avec le vin. Et en créant Montagne Café, pour moi, c'était vraiment important de faire ce lien-là et surtout de parler de traçabilité. Et d'emmener en fait les gens vers ce terrain de ce qu'on appelle le café de spécialité, le café de terroir, donc les cafés un peu premium. Et sur l'ensemble de mes paquets, du coup, on va retrouver pas mal d'informations justement pour emmener le client vers cette démarche-là. On va retrouver la date de torréfaction, évidemment, on va retrouver les notes de dégustation, on va retrouver l'altitude à laquelle ont poussé les cafés, la période de récolte, etc.
Et donc ça permet de construire une culture du café en France et vous y contribuez. Merci Emmanuel Chaler, artisan torréfacteur de café. Merci de nous avoir répondu sur Inter. Je vous laisse retourner à votre tasse et bonne journée à vous. Il est 5h51, les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et on bat des cils ce matin. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Aïe, j'ai un truc dans l'œil.
Bonjour, je m'appelle Violette, j'ai 6 ans et je voudrais savoir à quoi ça sert les cils. Merci, au revoir.
Ah, les cils qui vont donc se mettre dans l'œil parfois ou qu'on aime battre. À quoi servent-ils, Violette ? Tiens-toi bien, c'est le professeur Antoine Brézin qui est venu exprès pour te répondre de l'hôpital Cochin à Paris où il est chef du service ophtalmologie.
Ben, les cils, ils appartiennent à tout un système de protection des yeux. Nos yeux sont des organes extrêmement précieux. Si on n'a pas nos yeux, on est complètement perdu. Donc, il faut les protéger. Et finalement, on a peu de choses pour les protéger. On a nos paupières. Et puis, au bout des paupières, on a ces petits cheveux, c'est les cils, en fait, des petits poils. Et ça permet d'arrêter plein de choses qui, sinon, pourraient arriver dans nos yeux. Notamment, moi, quand je me déplace en vélo, ben, je suis bien content, quand je n'ai pas des lunettes, d'avoir des cils pour que les petits pucerons, les moustiques, les insectes, etc., viennent pas se coller et donc en général les cils peuvent les arrêter. Surtout si j'ai un petit réflexe de clignement qui va permettre déjà de faire descendre mes paupières et puis les cils vont les protéger.
Mais ils vont pas protéger du pollen ou en tout cas beaucoup moins.
Non, parce que le pollen c'est trop fin et ça passe entre les mailles du filet. L'autre chose aussi c'est que chez l'homme, l'espèce humaine a des expressions faciales que probablement n'ont pas d'autres espèces animales. Un chien, quand vous le regardez, un chat, bah, il a l'air content ou sympa, mais ça ne se lit pas sur son visage comme ça se lit sur le visage de l'homme. Et l'expression que vous avez dit battre des cils, tout ce qu'on peut exprimer au niveau du visage, ça s'exprime beaucoup par les yeux, ça s'exprime aussi par ce qu'on fait avec nos paupières, et les cils font partie de ça. Donc en fait, nos expressions s'expriment à travers les paupières, et les cils en font partie.
C'est-à-dire que les animaux, les chiens et autres, les lions, je ne sais pas, n'ont pas de cils ?
Ah si, ils ont aussi des cils. Mais la variabilité de leurs expressions faciales n'est sans doute pas aussi diverse que celle de l'homme. Vous voyez, enfin en tout cas, nous on a appris à les lire. Quand vous croisez quelqu'un, vous pouvez dire, tiens, il a l'air heureux ou il a l'air très très malheureux. Ça peut, en quelque sorte quand même, largement se lire sur l'expression de son visage. Et les paupières, les cils font partie de ces expressions de visage. C'est moins flagrant, ou en tout cas pour un œil humain, beaucoup moins détectable chez un animal.
Et Antoine Brézin, vous avez parlé au départ que c'était un peu les cheveux des yeux. C'est comme les cheveux, ça tombe régulièrement et ça repousse les cils, parce qu'on en voit souvent qui tombent.
Oui, ça se renouvelle, tous nos poils, de manière
tout
générale.
Tout au long de la vie.
Oui, oui, oui. Alors, il y a des maladies dans lesquelles on peut perdre les cils et qui ne se renouvellent pas, mais dans notre système normal, tout pousse et tout repousse en permanence.
Avec en moyenne plus d'une centaine de cils en haut et environ 80 en bas, répartis sur plusieurs rangées. Salut les matelots!
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et salut Camille Cronier, vous revenez après 20h et chers auditeurs, vous pouvez laisser un message à Camille 01 56 40 43 57.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de retrouver Patricia Martin pour un café philo. Bonjour Patricia.
Bonjour Marion Lourd.
Alors à la radio, il peut être embarrassant, mais dans la vie, on l'aime d'autant plus qu'il devient rare.
Tiens non.
Je veux parler du silence, et c'est votre sujet du jour.
Oui, il y a toutes sortes de silences, Marion. Il y a des silences qui sont nécessaires, d'autres qui embarrassent, il y a même des silences qui tuent. Réduire quelqu'un au silence peut devenir une torture pour lui. Et puis il y a le silence des religieux, la vie monastique est baignée de silence. Je dois dire que c'est un peu de ce silence-là que le merveilleux Christian Bobin parle dans l'extrait de l'interview qu'on va entendre. Je précise que Christian Bobin n'était ni prêtre ni moine. Il a longtemps vécu dans une petite maison, perdue au milieu de la forêt, pas très loin du Creusot. Christian Bobin.
Je suis relié par ce retrait. Je suis relié par le silence des nuits où je peux écrire sur une longue table de chêne. Ou sur une toute petite table dans une autre pièce, une toute petite table étroite, avec toute vérolée par des taches d'encre. Je suis relié par ce silence, par cette solitude relative, et par la proximité des livres sommeillant faussement à mes côtés, en vérité éveillé. Les livres des auteurs que j'aime. Je pense que quand vous faites un pas de côté, Vous ne quittez pas le monde, vous commencez enfin à le regarder dans les yeux. Quand vous êtes pressé contre lui, vous ne le voyez pas, vous ne vous voyez plus vous-même, vous ne savez plus rien, vous êtes comme affolé, pressé de tous côtés d'injonctions qui sont dites par personne. Vous vous reculez un tout petit peu, il n'est pas nécessaire, indispensable d'être dans une forêt pour cela. Vous vous reculez un tout petit peu et vous commencez à faire entrer en vous assez d'absence pour mesurer ce que c'est que la vraie présence, que la pure présence, la présence juste, et donc ce que c'est que le monde.
C'est une vive émotion hein, pour moi que d'entendre ce que vient de dire Christian Bobin, évoquer cet endroit où j'ai eu la chance de lui rendre visite. J'ai vu la petite table vérolée par les taches d'encre face à une grande fenêtre, je me souviens, d'où l'on pouvait apercevoir quelques chevreuils parfois. Et puis cette longue table de chêne sur laquelle nous avions dégusté une tarte aux pommes dans le silence des bois.
Quelle chance! Le silence, ça sera donc le thème de l'heure philo ce soir. Et le silence ne sera pas de mise puisque vous allez en discuter avec vos deux invités, Laurence Joseph pour son essai « Nos silences » paru chez Autrement et Stéphanie Baudet pour un récit très personnel « À l'écoute du silence » publié aux Équateurs. Et tout ça, ça sera à 20h10 à ce soir.